BW. Droits et libertés.
Deux pays très instables au sommaire de cette émission cette semaine. Le Liban d'abord, où la guerre civile, la crise économique et la guerre lancée par Israël contre le Hezbollah ont causé de nombreuses destructions. Un pays où le gouvernement est trop faible actuellement pour faire avancer seul la reconstruction. Alors nous verrons le rôle que peut jouer notamment la société civile pour trouver des solutions. Et puis la Libye. Exsangue, après presque 14 années de guerre civile, le gouvernement de Tripoli a durci les règles pour les filles et les femmes à partir de ce mois de décembre, ce qui a déjà suscité un tollé parmi les femmes, bien sûr, mais aussi les organisations de défense des droits humains et des membres de la société civile, y compris des hommes d'ailleurs. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. L'administration libyenne de Tripoli a décidé de la mise en place d'une nouvelle police des mœurs. Cette police des mœurs doit faire appliquer des règles strictes concernant les codes vestimentaires imposés aux femmes dans les lieux publics, notamment en obligeant les petites filles à porter le hijab à partir de l'âge de 9 ans. Les femmes ne sont plus autorisées à voyager sans tuteur masculin et les comportements jugés inappropriés entre femmes et hommes en public sont désormais aussi interdits. Emad Al-Trabelsi est le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli. C'est le gouvernement soutenu par les Nations unies contre celui du maréchal Haftar, basé lui à Tobrouk dans l'Est. Au début du mois de novembre, Emad Al-Trabelsi a déclaré, je cite, « La Libye n'est pas un endroit où l'on peut jouir des libertés individuelles », ajoutant que ceux qui recherchent la liberté devraient se rendre en Europe. Ces propos ont suscité l'indignation d'une partie de la population libyenne, jeunes et des femmes en particulier. Voici par exemple la réaction de la chercheuse Ahlam Bintaboun.
Je suis citoyenne libyenne et en tant que ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas à me dire de partir en Europe si je ne suis pas d'accord avec vos décisions. Je suis citoyenne libyenne et, pour vous le dire avec des mots simples, vous n'êtes pas chez vous ici. La Libye est un pays gouverné par des lois, des règles qui s'appliquent à tous, que nous soyons de simples citoyens ou des dirigeants.
Dès l'annonce de la mise en place des nouvelles unités de répression au sein des forces de l'ordre, des hommes se sont sentis encouragés dans leur penchant misogyne. C'est ce dont témoignent plusieurs Libyennes interrogées par la DW. Yasmine, par exemple, âgée de 26 ans, raconte « Un homme s'est approché de mon ami et de moi et nous a demandé si nous respections les règles de pudeur. Je portais pourtant une jupe longue, se souvient-elle. Mais comme je l'ai ignoré, il a commencé à me menacer et depuis, j'ai peur dans l'espace public. » Une autre femme, Zainab Tarba, une présentatrice de télévision connue en Libye, a vécu une situation similaire alors qu'elle ne portait pas de foulard sur la tête au volant de sa voiture.
Un jour, il m'est arrivé quelque chose sur l'autoroute à Tripoli en plein milieu de la journée. Tout à coup, une voiture m'a coupé la route et à l'intérieur se trouvait quelqu'un qui faisait des gestes avec ses mains, qui me menaçait et me suivait avec son véhicule. À chaque fois que je le dépassais et que je continuais ma route, il revenait, me bloquait à nouveau le passage. Cela aurait pu conduire à un carambolage sur l'autoroute. Alors j'ai décidé de rompre le silence.
Les organisations de défense des droits humains comme Human Rights Watch ou Amnesty International mettent en garde depuis longtemps contre ce qu'elles appellent une escalade dangereuse vers une répression qui étouffe en Libye. Pour Bassam Al-Kantar, qui est chercheur pour Amnesty International sur la Libye, imposer le port du voile aux femmes et aux fillettes dès l'âge de 9 ans, restreindre les interactions entre les hommes et les femmes et contrôler les choix personnels des jeunes en matière de coiffure et d'habillement sont non seulement très inquiétantes, mais elles violent également les engagements de la Libye au regard du droit international. L'obligation pour les femmes de demander l'autorisation d'un tuteur masculin pour voyager et la violation de la vie privée des individus par la surveillance constituent elles aussi des violations des droits humains. Le Comité national des droits de l'homme de Libye a d'ailleurs déjà déposé une plainte contre Emad al-Trabelsi, le ministre de l'Intérieur dont on parlait tout à l'heure. La plainte a été déposée auprès du procureur général par Ahmed Hamza, qui dirige ce comité.
Ces déclarations sont une insulte à la société libyenne, une diffamation et une offense délibérée ou non qui sont punies par la loi. En outre, ces déclarations incitent à la discorde, violent l'ordre public et portent atteinte aux droits constitutionnels, nationaux et légaux du peuple libyen. Ces remarques imprudentes et contraires à la loi constituent une violation flagrante des droits de l'homme et de la citoyenneté et doivent donc être sanctionnées par la justice.
Toutefois, en raison de la division politique de la Libye, ces nouvelles restrictions ne pourront pas être appliquées dans l'ensemble du pays. Imaginez-vous que le pouvoir du Premier ministre de Tripoli ne s'étend même pas à l'entièreté de la capitale, seulement à quelques quartiers. Alors, on ne parle même pas du reste du pays. Mais la nouvelle police des mœurs aura, cela dit, beaucoup de pouvoir dans sa zone d'intervention. Elle aura par exemple le droit de fermer des salons de coiffure ou des bars à chicha qui ne respecteraient pas les nouvelles règles. Aujourd'hui, quelqu'un critique ma coiffure et demain, il pourrait m'imposer ce que je dois porter, s'inquiète Ahmed, un étudiant de 23 ans qui vit à Tripoli. Il regrette de se sentir, dit-il, de plus en plus étranger dans son propre pays. D'où le rappel courageux d'Ahlam Bintaboun aux dirigeants libyens.
Notre relation commence et se termine par mes droits en tant que citoyenne. Il existe des structures et des procédures pour régir les interactions entre le citoyen et l'État. Ces procédures sont censées réglementer les relations entre les personnes qui ont le pouvoir et celles qu'elles gouvernent, entre les citoyens et l'État. Nous ne vivons pas dans la jungle. Les choses devraient fonctionner dans le cadre d'un système qui nous gouverne tous. Bien que la Libye soit classée comme un État fragile et qu'elle souffre de conflits, les relations sociales devraient toujours être régies par des normes qui évoluent avec le temps et le lieu. Mais monsieur le ministre de l'Intérieur, pense-t-il maintenant que le peuple libyen manque de discipline et a besoin d'être guidé? Cela ne fait aucun sens.
Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur la Deutsche Welle. Nous nous rendons maintenant au Liban. Lorsque Fatima Atiyeh est arrivée chez elle dans la ville côtière de Tyr au premier jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, son impatience a rapidement fait place à de la tristesse. Elle a vu que sa maison était très endommagée, toutes les fenêtres étaient cassées, les portes étaient défoncées, c'est ce qu'elle a raconté à la Deutsche Welle. Près d'1,3 million de personnes ont fui le sud libanais par crainte des frappes israéliennes et la majorité d'entre elles ont décidé elles aussi de rentrer chez elles malgré la fragilité du cessez-le-feu. Cet accord, négocié par les États-Unis et la France, prévoit une pause de 60 jours dans les combats entre Israël et le Hezbollah, des combats qui ont déjà fait plus de 3800 morts et plus de 15800 blessés au Liban depuis le mois d'octobre 2023, d'après les chiffres communiqués par le ministère libanais de la Santé. Les frappes du Hezbollah, un mouvement chiite soutenu par l'Iran, ont tué 45 civils dans le nord d'Israël et sur le plateau du Golan, occupé par Israël. Selon les autorités israéliennes, au moins 73 soldats israéliens ont été tués dans cette zone et lors de combats dans le sud du Liban. Le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Allemagne et plusieurs autres pays, tandis que l'Union européenne, elle, classe sa branche armée parmi les groupes terroristes. Maintenant que les armes se sont tues, au moins pour un temps, de nombreux Libanais se demandent vers qui se retourner pour réparer ou reconstruire leur maison. Anna Fleischer, directrice du bureau de la Fondation allemande Heinrich Böll à Beyrouth.
Il y a encore trop tôt et je pense que la priorité est que les civils puissent rentrer et se rendre compte de ce qui est arrivé à leurs biens. La Banque mondiale évalue les dommages et les pertes cumulées durant l'année qui vient de s'écouler à environ 8,5 milliards de dollars. C'est un fardeau vraiment énorme pour une économie qui suffoque déjà. Le gouvernement ne sera pas capable d'assumer cette charge tout seul et de tout reconstruire sur fonds publics. Il sera donc très important d'évaluer et de comprendre les besoins du Liban pour planifier sa reconstruction.
Avant même que le Hezbollah ne recommence à frapper Israël pour soutenir le Hamas, qui est une autre organisation terroriste également soutenue par l'Iran mais à Gaza, le Liban était déjà politiquement et économiquement en très mauvaise posture. Il y a un gouvernement intérimaire qui est en place depuis 2022, mais les institutions sont dans une telle incapacité d'agir qu'elles laissent un vide politique béant. Au mois de janvier 2025 se tiendra une élection présidentielle qui fait espérer à certains une amélioration, mais le Liban se trouve au bord de l'effondrement économique. Selon Human Rights Watch, près de 80% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté depuis que l'inflation a atteint 250%. Lynn Zovighian, fondatrice du Zovighian Public Office, une structure de financement basée à Beyrouth qui tente de venir en aide aux communautés confrontées à des atrocités.
Nous craignons que la réponse humanitaire ne soit pas dictée par les besoins fondamentaux des gens sur le terrain, non pas parce qu'il n'y a plus de société civile sur place pour aider, mais parce que les fonds sont devenus difficiles à réunir et tellement soumis à des conditions qu'ils ne permettent que des cycles de réponse d'urgence à court terme. La question la plus importante qu'on doit se poser, c'est de quoi la population a-t-elle besoin ? Les Libanais ont besoin de biens qui leur survivent, de maisons, de routes, de sécurité, de culture, de moyens économiques, d'infrastructures médicales et de bien d'autres choses encore. Cela signifie que la société civile a une mission presque impossible à remplir. Elle doit reconstruire un pays en l'absence d'État, transformer l'aide d'urgence en un financement stratégique qui s'oriente d'après les besoins réels et définir une vision à long terme qui puisse répondre à l'ampleur colossale des dommages collatéraux et des éventuels crimes de guerre perpétrés contre un peuple épuisé, terrorisé et profondément vulnérable. Face à ces enjeux majeurs, la société civile libanaise, en particulier les organisations locales issues des communautés les plus démunies, doit être responsabilisée et incluse dans les décisions de financement qui affecteront la vie de chacun pour les années à venir.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Jennifer Hall, A.S. Islam, Ala Trash et Sarah Tate pour les sons. Si vous souhaitez réagir ou partager ce magazine ou même le réécouter, rendez-vous sur la plateforme de réécoute de votre choix. Vous pouvez aussi le podcaster sur notre site tw.com/français. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.